Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Souvenir
FM. Bonjour à toutes et à tous, c'est le moment de votre émission préférée, l'invité du 12-13, moment privilégié d'échange et de découverte des acteurs locaux, ceux qui font vivre votre territoire au quotidien. Aujourd'hui, on accueille Thomas Vacher, directeur du SITCOM. Alors le SITCOM, c'est le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés. Bonjour Thomas, comment
Bonjour,
ça va ?
Bonjour, ça va super, merci.
Très bien, alors voilà, on parlait d'échange découverte des acteurs locaux et du territoire, on y est vraiment ?
Hein, on on est au cœur du territoire, voilà. Tous les jours, jour et nuit.
Voilà, là, on ne peut pas être plus près. On va passer une heure, on va découvrir un petit peu cet organisme, qu'est-ce qu'il fait, comment il fonctionne, parce que c'est un peu une machinerie quand même complexe. Hein. Il y a beaucoup de concepts, de techniques et d'humains qui font tourner tout ça, tous les jours.
Les habitants ne se doutent pas de toute l'énergie qui est déployée à partir du moment où ils ont mis leur sac poubelle dans le conteneur ou leurs déchets dans le point tri, tout ce qui se passe derrière, l'envers du décor.
Voilà.
Donc on va essayer de le découvrir ensemble midi.
Ça va être très bien, on va passer une heure ensemble. Pour ça, on va d'abord écouter le Flash Info national international et on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour avec Thomas. Alors, pour débuter, Thomas, est-ce que c'est possible d'avoir une petite bio, une petite historique, savoir ce que vous avez fait dans la vie, comment est-ce qu'on devient directeur d'un engin pareil ?
Alors, comment on arrive là ? Effectivement, c'est une bonne question. Moi, je suis un Landais d'adoption, on va dire. Je suis arrivé assez jeune sur le territoire. Je me suis un peu exporté pour mes études dans une école d'ingénieurs à Limoges. Mmh. Et ensuite, j'ai démarré ma carrière déjà dans les déchets, dans une structure publique, au SICTOM de l'agglomération parisienne. C'est le plus gros syndicat de gestion de déchets d'Europe. Quelques millions de personnes, quelques dizaines de millions de tonnes de déchets année. Autant vous dire que c'est une bonne école pour apprendre... à appréhender les problématiques complexes. Mmh. Et donc, j'y suis resté une petite dizaine d'années avant le rappel de la région. Et j'ai d'abord transité par le Pays Basque, où j'ai été pendant 6 ans, au syndicat Biltagarbi, qui est un syndicat de gestion de déchets chez nos amis bayonnais, avant de prendre la direction du SITCOM Côte-Sud des Landes en octobre 2016. Donc, ça fait maintenant quelques années que j'œuvre, moi aussi, en compagnie de mes 400 collègues du SITCOM, pour un environnement landais plus durable.
Oui, très bien. Voilà, ça fait un sacré gap quand même, j'imagine, à tout point de vue, entre Paris, la région parisienne et ici.
Oui, mais les enjeux sont les mêmes. Enjeux de réduction, de prévention des déchets, de tri, de recyclage, de valorisation. Mmh. On vit tous les mêmes problématiques et on vise tous les mêmes objectifs d'améliorer notre quotidien.
Mmh. Alors, on va essayer de savoir un peu qu'est-ce que c'est ce syndicat intercommunal. Qu'est-ce que c'est d'abord administrativement, c'est quoi comme entité ?
Nous, on est une structure publique. On a le même type de statut qu'une commune, une communauté de communes, un département. On exerce une mission de service public. Et la gouvernance du SITCOM, en fait, est assurée par des élus qui sont issus du territoire qui nous compose. En fait, on a, nous, 5 collectivités adhérentes, 4 communautés de communes, le Seignance, Marennes-Adour-Côte-Sud, Côteland Nature et Pays d'Orthe et Arrigan, ainsi que l'agglomération du Grand Axe qui nous a confié également une partie de la compétence. Donc on a un vaste territoire qui regroupe donc à peu près 186 000 habitants aujourd'hui et quasiment le double dans 10 jours quand l'été et les vacances scolaires arriveront. Ça, c'est une particularité du territoire. Donc un territoire très large puisqu'il couvre à peu près 2000 km², 76 communes. Donc on a effectivement un beau challenge de gérer les déchets de ce beau territoire.
Oui, c'est vrai qu'on a un territoire en particulier, nous c'est assez étalé, la densité n'est pas très élevée, il n'y a
tout à fait.
Pas de grosses villes, plein de petites villes étalées.
Alors on a un territoire très, très mixte, une belle partie côtière avec ses particularités et notamment l'aspect touristique, puis aussi une partie plutôt rurale à l'intérieur des terres où les problématiques ne sont pas forcément les mêmes et quelques zones un peu plus urbaines comme Tarnos ou les villes de Dax et Saint-Paul par exemple. Et donc on essaye de se nourrir de cette diversité du territoire tout en visant un objectif de bonne qualité de service pour l'ensemble des habitants.
Alors, on va parler forcément de déchets. Moi, j'avais fait un petit parallèle avec le cycle des animaux. Je pensais au fumier des chevaux et aux petits scarabées, les bousiers. On se rend compte quand on réfléchit quand même que le déchet de l'un est le trésor de l'autre, en fait, et que la définition de déchet n'est pas si simple que ça, elle est relative un peu.
Elle dépend de là où on se place, en fait. Et cette définition, elle est très juste, elle est de plus en plus juste, en fait, parce qu'en fait, il y a quelques années sur les communes de notre territoire. Je pense que chaque commune avait ce qu'on appelait son bourrier, c'est-à-dire c'était un trou dans lequel les habitants allaient jeter tous leurs déchets. Alors, on n'avait pas autant de déchets qu'aujourd'hui, on n'avait pas autant de plastique, mais mine de rien, c'était le seul exutoire pour tous les déchets produits par les ménages. Et là, pour le coup, le déchet de l'un était le déchet de l'autre. Le travail qui a été fait sur le territoire et à l'échelle nationale, hein, sur le développement du tri, du recyclage, de la valorisation, a permis justement de faire en sorte que, ben, petit à petit, le déchet des uns soit la ressource et un produit pour un autre, et de faire en sorte que, ben, pour nous, une bouteille plastique, c'est notre déchet du quotidien, mais une fois triée, une fois préparée, elle peut devenir un produit pour un fabricant qui voilà, fabrique d'autres matériaux plastiques et qui utilise du plastique issu du recyclage. Donc, on est vraiment dans une boucle qu'on essaye de faire la plus vertueuse possible.
Ouais, donc forcément, en histoire d'économie circulaire, hein, là, c'est le principe un petit peu. Alors, je vois que le 18 et 19 juin, il y avait à Cap-Breton un forum sur l'économie circulaire. Alors, en quoi ça consistait et quel est son bilan?
Alors, le Sitcom s'est lancé dans la stratégie d'économie circulaire assez récemment. On était très actifs depuis le début des années 2000 sur toutes les actions de réduction, de prévention des déchets. On a été l'un des premiers syndicats de France à distribuer gratuitement des composteurs à toute la population avec des très bons résultats. Aujourd'hui, on a plus de 70% de la population du territoire qui est équipée d'un composteur distribué par le Sitcom. Donc, c'est un niveau de couverture qui est vraiment très bon. Et donc voilà, on a depuis longtemps engagé des actions pour faire en sorte qu'on produise le moins de déchets possible. Après, il y a aussi une réalité, c'est qu'on en produit toujours. Et donc c'est là l'enjeu de l'économie circulaire, c'est comment on peut avoir une approche complémentaire qui est de dire, c'est la fameuse comparaison de tout à l'heure, c'est comment le déchet de l'un peut être une ressource de l'autre. Et donc on a bâti toute une stratégie d'action sur notre territoire sur la thématique d'économie circulaire qu'on a appelé le PASTEC. C'est le plan d'action du Sitcom pour la transition vers l'économie circulaire. C'est un document cadre qui regroupe 24 actions et qui nous engage, nous, vis-à-vis des collectivités du territoire, des habitants, mais aussi des entreprises, parce qu'on a tous un rôle à y jouer, à nous questionner sur nos pratiques, nos modes d'achat, nos modes de consommation et transformer ces pratiques pour être plus vertueuses. Et donc, dans notre volonté d'animation du territoire et de posture du syndicat comme étant vraiment un organisme stratégique et référence sur ces sujets-là, on a souhaité organiser, donc cette semaine, c'était mercredi et jeudi, deux jours de rencontres donc sur notre territoire. Ça s'est passé à la fois à Cap-Breton et à notre siège de Bénesse Marraine. On a invité toutes les collectivités, les syndicats, les entreprises, les associations du territoire, mais aussi au-delà, de la région et même à l'échelle nationale, puisqu'on avait aussi des représentants de Bretagne, du Nord, qui se sont déplacés. L'idée était de réunir tout ce monde-là en table ronde, en atelier, en réunion d'échange pour partager les expertises, partager aussi la vision stratégique nationale, parce que c'est important de s'inscrire aussi dans ce qui se fait à l'échelle d'un territoire plus large, et de pouvoir justement avoir une vision claire sur la bonne ligne de conduite à avoir sur ces sujets-là. Donc ça a été très riche, il y a eu plus de 150 participants qui ont participé donc à toutes ces rencontres, avec notamment des participants de premier plan. On avait le président de l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la transition énergétique. On avait la directrice générale de l'INEC, c'est l'Institut national de l'économie circulaire, ce qui permet voilà, d'avoir une vision un peu de hauteur, un peu stratégique sur ces sujets-là, tout en axant nos échanges sur les actions vraiment du terrain, du territoire, parce qu'on n'est pas là pour rester dans le concept. On a vraiment voulu parler du concret, parler du terrain, parler des territoires, parce que c'est ici que tout se joue.
Alors du coup, il y aura peut-être une sorte d'émulation, les gens discutent entre eux, tiens, ben moi, j'ai trouvé telle solution à tel problème, et
exactement.
Toi, comment tu fais
Exactement, c'est exactement ça la nature des échanges, et au bilan des deux jours, tout le monde nous a évidemment remercié, parce qu'en plus, le cadre était plutôt sympathique, c'est vrai que sur la côte sud des Landes,
il y a pire,
on est plutôt gâtés, donc ça a rajouté un intérêt supplémentaire à l'événement. Mais au-delà de ça, ça a été effectivement l'occasion de créer des moments d'échange collectif, parce qu'on peut discuter entre deux, mais là, on discute à 150, et donc de là, effectivement, jaillit la lumière en général. Et l'idée, c'est que cet événement-là ne soit pas un one-shot et qu'on se retrouve dans 10 ans, c'est que de manière très régulière, chez les uns, chez les autres, on puisse se retrouver pour animer voilà, ce réseau de collectivités, ce réseau d'acteurs, pour qu'on embarque un peu tous les territoires dans cette dynamique.
Ouais, ce serait un peu comme un festival de l'économie circulaire.
Exactement.
En quelque sorte.
C'est ça.
Je parle festival parce qu'on parle tout le temps de festival à ce micro.
C'est la
souvent.
Saison.
Oui, c'est la saison des festivals. Ouais. Je crois qu'on va faire de suite notre première pause musicale. On se retrouve tout de suite après.
À tout de suite.
Il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, de retour. On vient d'écouter Level 42. Alors, en musique aussi, il y a pas mal de recyclage, mais j'ai tendance à préférer les originaux personnellement. Voilà. Donc, ah oui, alors, je voulais rebondir sur cette histoire de compost. Alors, c'est vrai que maintenant, c'est vraiment bien parce que les gens qui ont un jardin, bon, ils peuvent avoir un compost dans leur jardin, évidemment. Mais les gens qui sont en immeuble, etc., bon, il n'y a pas. Hein, voilà. Donc maintenant, il y a possibilité, des points de retrait, d'avoir un endroit où on peut mettre son compost. Et ça, c'est pas mal, ça.
Oui, tout à fait. Ça, c'est une innovation made in sitcom depuis début d'année 2024. Mm-hmm. On a souhaité compléter le dispositif. Je le disais tout à l'heure, le compostage individuel est déjà bien engagé, bien pratiqué par les habitants du territoire. Mais on avait un petit trou dans la raquette. C'est
oui, bien sûr.
Les habitants qui habitent finalement en résidence, mm-hmm. Qui, pour le coup, n'avaient pas de solution parce qu'évidemment, c'est impossible de mettre en place un composteur. Et donc, on a mis en place sur tout le territoire du sitcom environ 300 bornes, ce qu'on appelle des bornes d'apport volontaire, mm-hmm. Dans lesquelles les habitants peuvent y amener leurs biodéchets. Les biodéchets, c'est les restes de repas, tous les déchets alimentaires. Mmh. Donc, on leur donne gratuitement ce qu'on appelle un petit bio-seau. C'est un seau en plastique dans lequel ils disposent leurs biodéchets dans un sac en papier craft qu'on leur distribue également gratuitement. Mmh. Faut juste se présenter sur une des déchetteries du territoire, demander à nos agents d'accueil qui leur donnera le kit complet. Mmh. Et donc, ensuite, dans votre cuisine, dès que vous cuisiner des légumes, de la viande, du poisson, vous pouvez tout mettre dans votre sac craft et déposer ça dans les bornes d'apport volontaire. Ces biodéchets seront transformés en gaz, en électricité et en compost.
Mmh, tout à fait. Alors, viande et poisson, voilà. Parce que, ah ben c'est super, je vais pas le dire ça à ma femme parce que c'est peut-être un sujet de dispute. Mais non, on met pas ça dans le compost. Ouais, ça dépend.
Ça me donne l'occasion d'être plus précis. Vous pouvez le mettre dans les bornes d'apport volontaire, mais je vous déconseille vraiment de le faire dans votre composteur parce que potentiellement, ça peut attirer des petites bêtes qui vous sont pas très sympathiques.
Oui.
Restez pour le composteur plutôt sur des éplucheurs et des restes de repas, mais sans viande, sans poisson.
D'accord. Alors, on va parler des déchets. Quelles sont les différentes catégories que vous avez à gérer?
Oh là là.
Je ne sais pas combien vous en avez dans votre catalogue.
Vous avez 4 heures à donner.
On va résumer.
Alors, on a quelques grandes familles de déchets. Mm-hmm. La première, les ordures ménagères, ce qu'on appelle vulgairement le sac noir, c'est tout ce qui n'est pas recyclable. Mm-hmm. Mais donc, du coup, parlons plutôt d'abord de ce qui est recyclable. Donc, ce que les habitants du territoire amènent sur les pointeries, on a aujourd'hui 3 flux principaux. Mm-hmm. Avec 3 couleurs différentes.
Couleurs,
le flux de couleur vert,
c'est le vert.
C'est le vert, c'est facile, un moyen mnémotechnique plutôt aisé. Le flux de couleur bleue, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est les éléments graphiques, donc le papier et la cartonnette. Mmh. Vous mélangez tout ça, vous mettez ça dans le flux bleu et à la fois le vert et le bleu sont recyclés directement par nos repreneurs et les industriels. Mmh. Et enfin, il y a un troisième flux, le jaune, qui regroupe plusieurs types de déchets, les plastiques, les déchets métalliques et les briques alimentaires.
Voilà,
donc, tout ça, vous le mettez ensemble. Et nous, on s'occupe derrière de collecter ça, de le retrier derrière de manière plus fine pour envoyer chaque matériau dans une filière de recyclage appropriée.
Mmh. Alors, j'ai une petite question sur les cartonnettes, d'ailleurs. Quelle est la différence fondamentale entre les cartonnettes et le carton qu'on doit amener, par contre
La taille.
C'est juste la taille.
Ouais,
la nature
est
la même.
Tout à fait. Alors, la nature est un peu différente, mais ça se recycle à peu près de la même manière.
Ouais.
C'est juste une question de taille. Si vous amenez vos énormes cartons de déménagement dans un point tri, vous allez déjà, un, avoir du mal à le faire rentrer.
Oui.
Et deux, vous allez saturer le point tri en 2 cartons. Ça serait quand même dommage.
Mmh.
Et donc, effectivement, c'est bien de le préciser. Les cartons, amenez-les dans les déchetteries. Il y a des bennes dédiées à ça. Et vos petites cartonnettes d'emballage de yaourt, par exemple, ou de petites boîtes à chaussures, vous pouvez les mettre dans les pointeries.
D'accord. Alors, bon, le verre, c'est pas très complexe non plus. Bon, juste, il ne faut pas mettre de vaisselle. Hein, en général, c'est que du verre, des bocaux.
Bouteilles et bocaux.
Soyons
simples.
Voilà.
Évitez les verres en verre, les assiettes en verre, enfin, toute la vaisselle, vous le disiez. Ça va, du coup, dans les ordures ménagères, parce qu'aujourd'hui, c'est clairement pas le même type de matériau que les bouteilles de verre, et donc ça ne se recycle pas de la même manière.
Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas forcément conscience
de
la différence entre les deux. Ça a l'air d'être la même chose, mais ce n'est pas la même chose.
C'est pas tout à fait la même chose.
Chimiquement,
effectivement.
C'est pas la même chose. Voilà. Et donc, alors, par contre, on est d'accord, le plus complexe, c'est le jaune, quoi. Parce que là, il y a beaucoup de choses.
Le plus complexe, c'est le jaune, parce que puis c'est le plus important en volume.
Et, oui.
Et donc, c'est pour ça que nous, derrière, il y a toute une énergie supplémentaire qui est dépensée, énergie humaine, mais aussi technologique, pour affiner le tri. Il faut savoir qu'une bouteille en plastique vert, de couleur verte, pardon, ne se recycle pas de la même manière qu'une bouteille en plastique de couleur transparente ou qu'une bouteille de lait opaque. C'est trois types de plastiques différents. Donc, voilà. Il faut que nous, derrière ça, on complète le geste de tri de l'habitant pour affiner et ressortir de nos centres de tri vraiment matériau par matériau pour renvoyer vers des filières de recyclage adaptées. Donc, il y a effectivement tout un travail qui est fait derrière le rideau, l'envers du décor, pour que le geste de tri de l'habitant puisse être complété vraiment par des machines, mais aussi le geste humain, parce qu'il y a aussi des trieurs, donc des vraies personnes qui viennent affiner le geste de tri de l'habitant.
Ouais, j'imagine. Alors, c'est vrai que le mieux, c'est toujours d'être en amont. C'est vrai que on en a parlé aux antennes, c'est mieux si le tri est bien fait. Mieux il est fait au départ, et mieux c'est fait quand même. Donc, c'est vrai que cette question du plastique, des fois, ces gens se la posent. Bon, ça, je sais pas combien de centaines de fois vous avez dû le dire, mais le plastique qu'on recycle, c'est celui, si on se pose la question, c'est celui qui a servi à emballer quelque chose.
C'est ça. Il y a une question très simple à se poser quand on est devant un point tri, quand on se dit, mais ça, je le mets ou je le mets pas. Il y a une seule question, c'est est-ce que c'est un emballage? Si c'est un emballage, vous pouvez le mettre au point tri. Si c'est pas un emballage, oubliez, mettez ça soit en déchetterie si c'est volumineux dans la benne de tout venant, soit dans votre sac d'ordures ménagères.
Ouais, parce que si c'est un emballage, c'est un type de plastique bien particulier que lui est, alors on va pas rentrer dans les détails parce que le but c'est que de pas noyer les gens dans l'information, qu'ils sachent exactement ce qu'ils doivent faire et pas batailler.
C'est ça.
Mais ceci dit, j'ai ouï dire qu'on faisait des progrès, non, sur les recyclages, des catégories de matériaux qu'on pouvait recycler avec le temps.
C'est vrai, vraiment, ça c'est une bonne nouvelle. Depuis qu'on a simplifié le geste de tri sur le territoire en 2022, qu'on a étendu le tri à tous les plastiques. Rappelez-vous, il y a quelques années, c'était uniquement les bouteilles plastiques qui se triaient. Aujourd'hui, on peut y mettre les pots, les barquettes, c'est les emballages de jambon industriels, etc.
Ça a bien changé,
On augmente les quantités collectées, triées, recyclées sur le territoire de 10% chaque année. Et donc ça, c'est vraiment un super résultat qui doit nous encourager tous à encore faire mieux, parce qu'on peut encore faire des efforts. Il y a certaines personnes qui ne sont pas encore adeptes du tri. Il y a encore des erreurs de tri qui sont constatées dans les, dans les containers des points tri. Pour autant, il faut aussi des fois savoir se dire quand ça va bien. Et là, on a plutôt des très bons résultats du tri quand on se compare au reste de la France, par exemple.
Après, il y a des déchets complexes. J'imagine, je pense à une brique de lait. Elle est composée de pas mal de choses, en fait, dont notamment un film en plastique très fin à l'intérieur,
avec
le contact alimentaire du liquide qu'il y a dedans.
Et même un peu d'aluminium. Enfin, voilà. On est très bons, les industriels sont très bons pour nous faire des emballages hyper complexes qu'on va avoir le plus grand mal du monde à recycler.
C'est une millefeuille là.
Exactement, c'est exactement ça. Mais bon, on y arrive, mais c'est vrai que ça mériterait quand même qu'on simplifie aussi en amont, parce que nous, finalement, habitants et nous, collectivités en charge de la gestion des déchets, on se trouve quand même en aval de la chaîne. On collecte et on trie ce qui est mis sur le marché, finalement. Donc, c'est vrai que l'effort, il est aussi, et peut-être surtout, à faire en amont dans la définition des emballages qui sont utilisés.
Oui, c'est pour ça qu'il y a quand même des lois, des réglementations qui apparaissent. Et d'essayer d'enlever en amont le plastique.
Exactement.
Plutôt que
tout à fait. C'est quand même ça l'enjeu.
Ça me semble plus logique. Et c'est le moment déjà de faire notre deuxième pause. Et on va écouter le flash info local concocté par mon acolyte Nicolas de l'antenne de Dax. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà, pas besoin de présenter Michael Jackson. C'était terrible. donc, on est de retour avec Thomas. Alors, il paraît que vous avez la certification ISO 14001. Alors, qu'est-ce que c'est que cet engin?
Rien à voir avec des agents secrets, promis.
Non.
C'est un système, ce qu'on appelle un système de management environnemental. C'est une certification qui nous sert, nous, à guider notre fonctionnement au quotidien sur nos sites industriels, à la fois la plateforme de recyclage qui est à Bénesse-Marraine, mais aussi demain sur notre unité de valorisation énergétique. C'est en fait un système qui nous permet d'attester, pour nous en interne, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur, qu'on pilote nos installations dans une maîtrise complète des enjeux environnementaux qui sont les nôtres.
Oui.
On traite des déchets, le sujet environnemental est évidemment prégnant au quotidien dans nos activités. Et donc ça avait du sens pour nous de pouvoir montrer aussi à l'extérieur que les équipes du Sitcom qui œuvrent au quotidien sur ces sites-là le font en maîtrise complète de, des enjeux environnementaux.
Oui, c'est une reconnaissance de votre travail et,
ouais,
et un gage de qualité. On sait à quoi on a affaire, à qui on a affaire.
Tout à fait. Voilà. Donc, c'est un organisme accrédité extérieur qui vient nous auditer tous les ans et qui renouvelle année après année cette certification.
Oui, tout à fait. Alors, on en parlait tout à l'heure du verre, on va en parler rapidement. Mais c'est vrai que le verre... il y a très longtemps, ça se... il y avait une consigne sur les bouteilles. Moi, je dis très longtemps parce que quand j'étais jeune, donc forcément, c'est une époque où le monde était en noir et blanc.
Ce qui me fait peur, c'est que moi aussi, je l'ai connu.
Ah mince, c'est mauvais signe, ça.
Ouais.
On va bientôt finir dans les matières à recycler, hein, je crois.
J'ai peur.
Ouais, ouais. Et du coup, mais ça revient un petit peu... On commence à en reparler maintenant, tout à coup.
Eh oui, c'est vrai qu'on présente ça comme des nouvelles innovations et une petite révolution. Mais finalement, on revient juste au bon sens d'il y a quelques années. Devant le constat qu'il y a de plus en plus de déchets qui sont produits sur le territoire, pas qu'ici, hein, partout. Il y a des nouvelles initiatives qui se développent pour remettre en place des dispositifs de consigne du verre. Ça va plutôt dans le bon sens.
Oui.
Ça crée de l'activité, et ça crée de la ressource et puis surtout, ça limite les quantités de déchets qui sont produits par les ménages. Donc, ça a évidemment du sens. Ça nécessite une logistique différente pour chacun d'entre nous, mais nous, on encourage évidemment vivement ce type d'initiative.
Ouais, c'est vrai que nos amis belges ont toujours eu ce système-là. Je parle de ça parce que y a dans les détails de commerce de vente ou de la bière, etc., certaines bouteilles de bière d'origine belge contiennent déjà une consigne. C'est-à-dire que même au bar, on peut dire aux gens ces bouteilles-là, ne les jetez pas, rendez-les-moi, elles sont consignées.
Autant la bière, il faut la consommer avec modération, autant la consigne, le recyclage, on peut y aller sans limite.
Ouais, c'est très bien. Aussi, tiens, on va parler de la collecte des textiles. Elle est un peu particulière, celle-là, parce qu'elle est, entre guillemets, issue d'une collaboration aussi.
Ouais. Il y a quelques années, on a voulu engager avec les partenaires du territoire ce qu'on a appelé un projet textile, un projet de territoire textile. Et donc, on a découpé les différentes zones de collecte des textiles sur le territoire du Sitcom avec trois partenaires. On a un premier partenariat avec l'association Voisinage,
qu'on connaît bien, qu'on a reçu ici.
Tout le monde connaît par cœur, évidemment. On a un partenariat avec une société privée girondine qui s'appelle Actifrip et qui également collecte nos textiles et qui est en fait une société qui possède aussi les magasins Maboul, qui sont des magasins de vente de produits de seconde main.
D'accord.
Et on a un troisième partenariat avec une société du territoire qui s'appelle Wateco, que je profite pour saluer, et qui fabrique à partir des textiles collectés, là c'est sur nos déchetteries, de l'isolant pour les bâtiments. Donc une belle façon d'identifier une nouvelle piste de recyclage pour les textiles qui sont de plus en plus nombreux dans nos poubelles.
Et oui, voilà, donc on parlait hors antenne de la fast fashion, ça fait qu'il y a énormément... même beaucoup trop maintenant de textiles qui sont disponibles, là, qui sont jetés parce que certaines entités commencent à être complètement submergées en fait.
Ouais, on vit une époque vraiment formidable dans laquelle on peut acheter un t-shirt à 1 euro qui a été fabriqué en Chine, qui a
traverse
une empreinte carbone colossale et qui arrive ici pour être finalement... jeté au bout de 3-4 lavages parce qu'en fait évidemment on est sur de la piètre qualité et donc qui génère un déchet très rapidement et effectivement les collectivités font face à cette situation qui est très complexe parce qu'on explose du coup les quantités de déchets textiles collectés sur l'ensemble du territoire national et du coup ça freine complètement les filières de recyclage qui n'arrivent pas à suivre et qui se retrouvent du coup dans des difficultés très importantes et on a sur le territoire des difficultés même à organiser des collectes régulières des containers de textiles parce qu'on n'a pas finalement de débouchés derrière pour valoriser ces textiles.
Et puis souvent en plus les textiles issus de la fast fashion, en fait si on regarde bien techniquement, mais en fait c'est du plastique,
c'est
rarement du beau coton bio, faut pas rêver. Donc du coup c'est quand même embêtant parce que encore une fois en amont, on a ce problème de faire les choses en amont qui c'est catastrophique.
Sur beaucoup de thématiques, toujours important de prendre un peu de distance et de se dire non mais ok, mais est-ce qu'on peut pas réagir différemment et œuvrer plutôt en amont. Sur le sujet des déchets, on est vraiment là-dedans.
Alors il y a aussi donc tout ce qui ne se recycle pas est souvent valorisé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire valoriser un déchet, notamment en termes énergétiques ?
Eh bien, le recyclage, la valorisation, c'est la même famille. Le recyclage, c'est transformer, c'est plutôt de la valorisation, ce qu'on appelle matière, c'est transformer du plastique en plastique pour l'utiliser dans d'autres activités. La valorisation, c'est un peu différent, c'est qu'on transforme le déchet soit en un autre produit, soit en énergie. Mmh. Et c'est ce qu'on fait, par exemple, sur l'unité de valorisation énergétique de Benlès-Marraine, qui est l'outil industriel principal du Sitcom, qui est une installation qui a été mise en service fin 2016, mmh. et qui transforme en fait nos déchets en électricité qui est revendue sur le réseau EDF. Donc on produit chaque année à peu près 50 gigawattheures d'électricité. Alors mmh. évidemment, ça ne vous dit rien. C'est l'équivalent de la consommation d'une ville de 35 000 habitants mmh. d'électricité chaque année. Oui. Donc ça donne un peu de sens justement à cette transformation énergétique de nos déchets. On part d'une contrainte, les déchets produits sur le territoire, et on les transforme en opportunités. On mmh. produit de l'électricité verte qui permet du coup de limiter le recours aux filières plus traditionnelles de l'électricité, mmh. notamment le nucléaire.
Oui, voilà. Ouais, sur votre site internet, qui est très bien fait, il y a beaucoup de choses. C'est très pédagogique.
Il y a beaucoup d'infos.
Ouais, c'est bien présenté. Il y a beaucoup de choses. C'est vraiment bien. Il y a un petit schéma là. On voit bien, effectivement, qu'on crée de l'énergie, de l'électricité en brûlant. Alors, je suppose que ces fameux plastiques qui ne sont pas recyclables, les autres, je suppose que cela, on les brûle.
Évidemment, voilà. ils font partie des déchets qui ne sont donc pas recyclables, mais valorisés.
Voilà.
Et évidemment, ils sont incinérés dans notre UVE. Je rassure tout le monde. Évidemment, les fumées issues la combustion traverse de nombreuses étapes de traitement, de filtration.
C'est expliqué d'ailleurs dans votre...
Oui, tout à fait. Et on analyse en continu la qualité des rejets atmosphériques qui sortent donc de l'UVE, de sorte qu'on s'assure qu'évidemment l'impact sanitaire soit complètement neutre.
Mais oui, sinon, à quoi ça servirait sinon...
Évidemment.
Alors oui, il y a un aspect important de votre activité quand même, c'est la saisonnalité. Oui. Moi, je faisais le parallèle avec les centrales d'épuration. C'est pas le même boulot à faire l'hiver et l'été.
Ouais, on a à peu près le même schéma. Effectivement, les déchets du territoire ne sont pas les mêmes le 1er février et le 15 août.
Et non.
Clairement, on double de population et on double du coup de tonnage de déchets pendant la phase estivale. Ça, c'est classique. Alors, c'est pas récent, ça fait longtemps. Et donc, le Sitcom, qui est une structure ancienne avec beaucoup d'expérience, on va dire, puisqu'on a 55 ans, on a l'habitude de gérer ça, on sait faire. On a les structures, on a le personnel, on a les ressources pour justement pallier à cette pointe estivale. Et donc, on recrute aussi beaucoup d'agents saisonniers pour compléter nos équipes, parce qu'en fait, on double certaines collectes, on triple même sur certaines zones, de sorte qu'on s'adapte finalement aux productions de déchets sur le territoire.
Mmh. Oui, donc ça demande, il faut des petites mains en plus, forcément.
Ah oui, il en faut quelques-unes.
Là. Et alors, je me demandais aussi comment ça se passe, on parlait du bac jaune, le tri et tout, il y a des machines, elles marchent comment, elles font quoi? Comment est-ce qu'elles font pour savoir ce qu'elles doivent mettre de côté et après, les êtres humains, ils se débrouillent avec leur sens analogique. Ouais. Comment ça marche, ça, un petit peu?
En fait, effectivement, on en parlait tout à l'heure, le bac jaune qui contient un mélange de déchets recyclables est envoyé sur un centre de tri partenaire qui est à Bayonne, chez nos voisins du syndicat Biltagarbi, qui est une collectivité comme nous, publique, en charge de la gestion des déchets, qui avait de la place dans son centre de tri pour accueillir nos flux. Donc ça nous a évité d'investir fortement. Et donc en fait, le principe, alors j'allais dire il est simple, pas tant que ça, mais c'est effectivement un enchaînement de machines qui, même, on peut le dire, à partir d'intelligence artificielle, puisque ce sont des caméras infrarouges qui vont détecter le type de plastique, le type de matériaux, et en fonction de ce que la caméra va détecter, il y a des petites buses d'air comprimé qui vont souffler les déchets à droite, à gauche, en haut, en bas, pour les envoyer sur des tapis différents, et de sorte qu'on puisse séparer les matériaux, puis ensuite, encore heureux, aujourd'hui, on n'a pas fait mieux que l'œil humain contrôler les machines. Et donc, on a aussi du personnel qui va corriger les erreurs de tri des machines et compléter et affiner encore le tri fait par les équipements.
Oui, alors après, tout ce qui est canettes et tout, alors c'est une chose... Enfin, les gens devraient être plus surpris que ça, mais les canettes d'aluminium, elles sont séparées par aimantation.
Ouais.
Sauf que l'aluminium, c'est pas aimantable.
Donc,
il faut savoir que je crois que c'est le dessous des canettes, il y a du fer dedans, parce que sinon, on pourrait pas les séparer par aimantation.
On a des machines spécifiques qui s'appelle, alors on rentre un peu dans la technique, mais des machines à courant de Foucault, qui sont des systèmes d'aimant inversé, qui vont capter l'aluminium pour pouvoir le séparer. Et là aussi, c'est toujours le même principe. L'idée, c'est d'envoyer chaque type de matériau dans des filières de recyclage adaptées. On ne recycle pas l'aluminium comme on recycle le métal.
Ouais, mais encore une fois, en écoutant ce que vous dites, on se rend compte que c'est vraiment, plus on fait de travail en amont, moins on fait en aval.
Évidemment, l'enjeu, il est en amont, et donc à notre niveau, il est au niveau de l'implication de chaque habitant du territoire dans le tri. Et dans le bon tri si possible, et ça simplifie effectivement ce qui est à faire après, et accessoirement ça réduit aussi le coût.
Et oui, voilà, c'est ça. Bon, ben, c'est le moment de faire notre dernière pause. On se retrouvera ensuite pour la conclusion de cette émission qui sera passée extrêmement rapidement, parce qu'en fait on a l'impression d'avoir pas dit un dixième de ce qu'on pourrait dire. À tout de suite. Et nous voilà dans la dernière partie de notre émission. Alors Thomas, il y a même au sitcom, il y a une actu quand même le 5 juillet.
Même au sitcom, même surtout au sitcom. On a de l'actu tous les jours, on pourrait y passer l'après-midi, mais effectivement là, dans l'actualité immédiate en lien avec les habitants du territoire, on organise le 5 juillet une journée de sensibilisation qui nous permet de découvrir le pouvoir de nos déchets avec des visites de l'unité de valorisation énergétique, une sensibilisation sur la réduction et notamment sur le compostage des déchets.
Oui.
Donc n'hésitez pas, si vous voulez découvrir en famille, entre amis, l'envers du décor, comme on l'évoquait tout à l'heure, jetez un œil sur le site internet du sitcom, sitcom40.fr, il y a un petit clic. Vous avez 4 visites organisées, elles durent à peu près 2 heures chacune. Passez un coup de fil, réservez vos places, elles sont chères, gratuites, hein, mais chères dans le sens de plus en plus rare, la date approche.
Bien sûr.
Et venez découvrir donc justement ce qui se passe une fois que vous avez mis vos déchets dans votre conteneur.
Tout à fait, voilà. Alors moi j'avais juste une toute petite remarque personnelle, voilà, je voulais le rappeler, c'est vrai que si vous allez à Bénès, vous pouvez acheter du compost, du paillage et du bois pour l'allume-feu et du bois de chauffage, et tout ça c'est des déchets locaux qui sont revalorisés localement, et on peut pas faire plus court, et en plus c'est beaucoup moins cher que si vous l'achetez ailleurs, donc vraiment ce serait dommage de passer à côté de ça, je trouve.
Merci pour le coup de pub. Mais c'est vrai,
c'est vrai.
Pour certains le concept d'économie circulaire c'est un peu fumeux, c'est un peu trop. Là on est vraiment dans une illustration très concrète, très opérationnelle. C'est les déchets du territoire transformés en produits du territoire par des habitants et des agents du sitcom qui sont des gens du territoire. Donc c'est vraiment le service, c'est le territoire au service du territoire. Et donc voilà, effectivement c'est moins cher, c'est de meilleure qualité, c'est bon pour la planète, enfin on coche toutes les cases.
Voilà, c'est ça. Bon, ben vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Venez sur notre plateforme de Bénès Marraine, vous serez pas déçus.
Voilà, ben merci beaucoup Thomas, ben, c'était
merci.
Super intéressant.
Merci beaucoup.
C'était très riche et voilà.
Ben c'était un plaisir de pouvoir partager notre service public de gestion des déchets au service des habitants. Donc, merci encore pour l'invitation.
Très bien, merci beaucoup, au revoir.
Au revoir.